L'inégalité homme-femme de MeToo à la différence des sexes. Alors que le mouvement MeToo a remis sous les projecteurs les violences faites aux femmes, pas seulement les violences infligées ailleurs dans d'autres cultures, mais également celles qui se produisent dans l'appartement d'à côté, allant jusqu'au meurtre, j'ai choisi d'aborder ce thème de l'inégalité homme-femme à partir de ce que le Nouvel Obs a nommé dans son hors-série de cet été, la domination masculine. Il ne s'agira pas ce soir de tenter d'expliquer ce phénomène ancestral, mais seulement d'y regarder par un petit bout de la lorgnette, à savoir celui de la différence des sexes introduite par Lacan avec les formules de la sexuation. Les chercheurs ont bien tenté de dater à quand remontent les inégalités et les violences exercées sur les femmes, mais rien de bien probant. Même les recherches faites par des anthropologues féministes qui ont voulu montrer que les sociétés primitives étaient matriarcales ont dû admettre que ce n'était probablement pas le cas. La domination masculine est aujourd'hui considérée par la grande majorité des spécialistes comme un invariant anthropologique ne souffrant aucune véritable exception présente ni passée. Un archéologue et préhistorien indique que depuis les origines de Homo sapiens, la maternité et le sexe sont pour les hommes source d'angoisse et de tensions sociales. Cette crainte serait selon lui celle du mystère de la maternité, devant laquelle les hommes peuvent se sentir dépossédés. Ce sont les femmes qui font les enfants. On ne peut se passer d'elles. La conquête du pouvoir passe dès lors par le contrôle de la sexualité féminine. Les hommes s'accaparent le pouvoir en le justifiant par des récits sacrés et des textes religieux. Les femmes sont accusées de provoquer la tentation, Ève dans la religion catholique, Pandore dans la mythologie grecque. Les hommes se doivent donc de maintenir l'ordre, de tenir la barre. Dans la Grèce classique, les femmes sont exclues de la vie politique et sociale. Leur rôle est réduit pour l'essentiel à la procréation. Aristote, en se basant sur le naturel, disait que la femme est une version incorrecte du modèle masculin. La femme n'était que la nourrice du germe semé en elle. Dans le séminaire encore, Lacan fait une allusion à cette façon d'exclure et de réduire la femme. Il dit « Pour que l'âme trouve à être, on en différencie elle, la femme, et ça, d'origine. On la dit femme, on la dit femme. » Le premier s'est dit « femme » en deux mots, et ensuite a dit « femme ». Ce qui est de plus fameux dans l'histoire est resté des femmes, c'est à proprement parler ce qu'on peut en dire d'infamant. La seule place honorable, c'est celle d'être mère. Lacan, en citant Cornélie dans le séminaire encore, introduit la distinction entre la femme et la mère. Cornélie, mère des Gracques, est reconnue comme le modèle de la mère romaine en consacrant sa vie à l'éducation de ses fils. Aujourd'hui, si nos sociétés ont beaucoup évolué, la domination masculine n'a pas disparu. Elle se montre encore très active. Les velléités de contrôler le corps des femmes n'a pas cessé. Réduire la femme à la question de la procréation n'est-elle pas avant tout une façon de la soustraire à la jouissance? Le recul du droit à l'avortement sous couvert d'idéologie n'en serait-il pas un des effets? Les violences faites aux femmes dans les cultures ont bien souvent cet objectif. L'excision en est l'exemple le plus manifeste. Et cela se retrouve dans toutes les sociétés. À la fin du XIXe siècle, alors que le sport de compétition est en pleine expansion dans les milieux aisés et cultivés, il n'était pas interdit aux femmes, mais fortement déconseillé. Non seulement leur corps devait être préservé pour la procréation, mais il s'agissait aussi du contrôle de leur sexualité. On ne souhaite pas que les femmes fassent du vélo. Je cite « la peur de la masturbation ». La crainte que le penchant naturel pour le vice ne prenne le dessus conduise les médecins de l'époque à mettre en garde contre les femmes qui cherchent l'excitation sexuelle et qui trouveraient dans la bicyclette le moyen de satisfaire leur passion. Cet exemple plutôt contemporain Cet exemple plutôt contemporain au regard de la civilisation humaine indique l'imaginaire autour de la jouissance sexuelle des femmes. Or, celui-ci n'est pas nouveau. On le retrouve dans la mythologie grecque. Le devin, Tirésias, connu pour sa particularité d'avoir été une femme pendant 7 ans, est interrogé par Zeus sur la jouissance sexuelle des femmes, lui-même déjà convaincu que la femme a une jouissance plus importante que les hommes. Tirésias confirme qu'elle est 9 fois supérieure à celle de l'homme. De quoi nourrir l'énigme de la jouissance féminine. La domination masculine ne se traduit pas seulement par le maintien de la femme comme matrice. Elle se manifeste aussi par cette façon de la reléguer à l'état d'objet sexuel. Le mouvement MeToo, pour ne citer que celui-ci, le dénonce haut et fort. Il y a de multiples exemples, mais je ne m'engagerai pas dans ce sens. Cela soulève beaucoup de questions différentes quant à la place qu'occupe psychiquement la femme pour l'homme, y compris dans leur rapport à leur mère. Un patient originaire de Guinée-Conakry me disait « Je respecte ma mère et toutes les femmes sont pour moi des mères que je respecte. » On peut entendre bien des choses dans cette petite phrase. Elle sous-tend, il me semble, cette différence entre la mère et la femme et leur rapport sexuel à la jouissance, supposé à la jouissance. Ce terme de MeToo en dit long sur la revendication d'égalité des sexes. Il ne s'agit pas seulement d'être respecté, mais de revendiquer le droit à la jouissance sans qu'elle soit contrôlée par les hommes ou par les mères. Ce mot aussi pourrait être entendu comme le droit au phallus. Ce n'est probablement pas là pour rassurer les hommes qui pourraient s'inquiéter de ce que les femmes, à se vouloir égales aux hommes, prennent le pouvoir, ou bien si l'on entend cette revendication de l'égalité au sens d'être même, n'est plus besoin d'eux. Le débat sur la PMA participe à ce fantasme. Une patiente me disait récemment que de toute façon, maintenant, on va pouvoir faire des enfants toute seule. On pourrait aborder cette question du rapport entre les hommes et les femmes par de multiples orientations, sociétales, éducatives, etc. J'ai choisi d'avancer sur ce sujet de l'inégalité homme-femme avec le concept lacanien de différence des sexes qui me semble intéressant pour appréhender quelque chose de ce qui pourrait produire ce mouvement de domination. Avec ses formules de la sexuation, Lacan distingue les sexes à partir du rapport au manque et à la jouissance. L'appartenance sexuée se situe là. Ce qui institue la différence des sexes dans sa théorie, c'est ce qu'il a nommé la jouissance supplémentaire chez la femme. Pour Lacan, le côté femme, c'est la femme pas toute. C'est-à-dire qu'il y a une part de la jouissance chez l'être parlant en position féminine qui ne passe pas par le phallique. Le tableau des formules de la sexuation se divise en deux. À gauche, l'homme, à droite, la femme. Je vous ai mis le schéma. Ici, la femme n'est plus les femmes. C'est une distinction très importante. Ce qui est écrit du côté droit du tableau se traduit plutôt de la position féminine. Le pôle dit féminin est porté de manière privilégiée par les femmes, une par une, mais n'empêche pas que les hommes s'inscrivent de ce côté-là. De chaque côté du tableau, il y a 2 formules. Du côté homme, les formules indiquent et tout passe par la fonction phallique. Mais il y a chez l'homme un qui fait exception, qui n'est pas soumis à la castration. Ce un est symboliquement le père de la horde, ainsi nommé par Freud. Être dans la fonction phallique, c'est être soumis à la loi symbolique, celle du père originel, ce un qui fait exception. Du côté de la femme, il n'y a pas de un qui nie la fonction phallique, c'est-à-dire qu'aucune femme ne fait exception à la fonction phallique. Mais tout ne passe pas nécessairement par là. La femme n'est pas toute entière soumise à la castration. Dans la partie gauche du tableau qui désigne les êtres parlants en position masculine, le sujet S barré s'oriente vers l'objet A, objet cause du désir, qui se trouve côté femme. Cet objet A correspond à un objet perdu qui a une grande valeur et qui est recherché. Il est porté par le fantasme qui pourrait combler le manque et obtenir ce 1. Dans la partie droite du tableau, le « la » barré désigne la femme pas toute, qui d'une part avec la flèche va vers la partie gauche du tableau pour convoiter le phallus de l'homme, et d'autre part avec une autre flèche s'oriente vers le « s » de « a » barré qui signifie le manque dans l'autre. La singularité de cette autre flèche, c'est que ça ne passe pas par le phallus. Ce « pas tout » ne passe pas par le colvintage de l'objet. C'est une jouissance qui passe par le manque. Elle est hors symbolique. Lacan prend l'exemple de l'extase religieuse. C'est ce que Lacan désigne comme la jouissance supplémentaire. La femme ainsi nommée par Lacan représente un sujet qui choisit une position sexuelle qui n'est pas réduite à la fonction phallique. Même si elle était inscrite quand même, Lacan disait dans le séminaire encore, je cite, « Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle n'est pas du tout. Elle y est à plein. Mais il y a quelque chose en plus. Il y a une jouissance de corps qui est au-delà du phallus. » Et Lacan précise, « Vous remarquerez que j'ai dit supplémentaire, si j'avais dit complémentaire, où en serions-nous ? On retomberait dans le tout. » C'est une précision importante. Cette peur de la jouissance féminine échappe à l'articulation signifiante, d'où l'impossible à l'énoncer. Les femmes l'éprouvent mais n'en savent rien. Il n'y a pas de signifiant pour dire ce qu'elles éprouvent. Dans le rapport des hommes avec les femmes, la question se situe du côté de la position féminine, qui est une position différente dans le rapport à la castration. Ainsi les femmes, dans un autre rapport à la castration que les hommes, seraient-elles suspectées d'un rapport à la jouissance marqué par un supplément auquel les hommes n'accèdent pas ? Pourrait-on y voir cette nécessité de domination sur les femmes pour se protéger de ce supplément qui n'est pas maîtrisable ? Cette jouissance autre, dite « sans limite », n'inquiéterait-elle pas les hommes de ce que les femmes pourraient entièrement s'en satisfaire, ne plus avoir besoin d'eux ? Ainsi, non seulement les femmes inquiètent parce qu'elles supportent le manque de la castration, mais également parce qu'elles accèdent à un plus. Et un plus qui se trouve justement là où les sujets en position masculine ne supportent pas d'être, là où il y a un manque. Dans les écrits, dans Jeunesse de Gide ou La lettre et le désir, Lacan introduit le concept de la vraie femme. Madeleine, l'épouse de Gide, dans un mouvement pour se dégager de sa relation avec son mari, détruit les précieuses lettres d'amour qu'il lui a écrites pendant des années. Médée, dont Lacan fait allusion dans ce même texte, en arrive à tuer ses propres enfants après avoir été abandonnée par son époux Jason pour une autre femme. Haruki Namiko, psychanalyste, propose une interprétation de cet acte de destruction de Médée. Je cite. Elle abandonne son désir de posséder des enfants qui masqueraient, comme un phallus, son manque. Ce serait à ce moment-là qu'une vraie femme apparaîtrait. Elle se sépare ainsi de ses objets phalliques, se dégageant du fantasme qui sous-tend sa relation d'amour avec son mari. Elle ne masque plus son manque originel et y fait face, ne dépendant plus du fantasme de l'autre. Ainsi Médée illustre un au-delà du phallus. Elle n'est plus dans l'avoir, elle est dans l'être. Madeleine, en détruisant les lettres, n'a plus d'objet, n'est plus l'objet issu de cet amour qui lie, qui la lie à Gide. Dans les relations dites amoureuses, l'homme désire en mettant le voile de son fantasme devant la femme, et la femme désire le phallus qui soutient les hommes castrés, à savoir ce qui manque aux hommes. Tous les deux se désirent par l'intermédiaire de leur propre fantasme inconscient. Lorsque le fantasme change ou bien tombe chez l'un et l'autre, le couple ne va plus tout à fait pareil. Lorsqu'une femme quitte un homme ou bien le trompe, qu'est-ce que cela vient signifier pour lui ? L'homme, pour qui la femme est en place d'objet idéalisé, se voit privé et se confronte à un manque qui peut être plus ou moins supportable. Un patient, trompé par sa femme, me disait en séance qu'il se sentait émasculé. Un autre homme expliquait cet insupportable sentiment de castration après que sa compagne, mère de ses enfants, l'ait quitté pour une femme. L'insupportable ne portait pas seulement sur la séparation, mais sur l'idée d'avoir vécu si longtemps avec une femme qui ne l'avait peut-être jamais désirée, ou du moins pas comme un homme. Peut-être a-t-il été traversé par l'horreur qu'elle l'ait pris pour une femme. Dans ces deux exemples, nous pouvons voir que ces hommes se sont sentis confrontés à une castration prodiguée par l'objet amoureux lui-même, en place d'objet A. Non seulement cela vient actualiser chez eux le complexe de castration, mais ici la jouissance sexuelle de la femme leur échappe, voire même laisse paraître la possibilité d'une jouissance autre, en particulier si l'on se réfère au deuxième exemple, où l'on peut y voir poindre la question d'une jouissance sans pénis, qui exclut l'homme et son appareillage. Nous pouvons considérer ici la haine et le déchaînement de violence que cela peut générer chez certains. Cette violence que nous entendons quotidiennement dans les médias entre les hommes et les femmes, en proie à ce que provoque chez eux cette dissymétrie des sexes, ce ratage dû à l'asymétrie des jouissances qui induit cette difficulté à s'entendre face à l'impossible rencontre, l'impossible rapport sexuel. Alors, je vais terminer sur une note un peu plus optimiste sur les relations hommes-femmes. Je vais vous conter une histoire d'amour qui s'ajuste assez bien avec le tableau de la mienne. C'est un homme marié, il a des enfants, il est plutôt épanoui par sa vie de famille. Il y a quelque temps, il a rencontré une femme qui a été pour lui, dès le premier contact, une rencontre inédite. C'est ainsi qu'il en parle. Il décrit d'ailleurs une rencontre de corps avant tout. Cette femme est également en couple. Assez rapidement se met en place entre eux une relation particulière. Ils se donnent rendez-vous, déjeunent ensemble, se promènent des après-midi entières, parlent ou pas des choses de la vie. Le patient dit que ces rencontres sont comme un éternel premier rendez-vous. Il ne sait pas ce qu'il faut attendre de cette relation, ni ce qu'elle en attend. Il y a quelque chose chez elle qui fait énigme, tout particulièrement dans ce qu'elle ne dit pas. Ils se sentent amoureux comme jamais, mais rien ne se parle entre eux à ce propos. Il dit « Lorsque je sais que je vais la voir, je me sens bien, je me sens complet. » Lors d'une de leurs premières rencontres, il s'entend lui dire une phrase qui continuera à résonner en lui et qu'il me rapportera en séance sans bien savoir pourquoi. C'est la phrase qu'il a dite. C'est impossible ce que nous faisons là. C'est impossible pour lui dire l'improbable de ce temps partagé se présente comme l'équivoque de l'impossible et de l'un en deux mots possible de leur relation.